France Culture.
Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film.
La banlieue n'est alors pas juste un décor, elle devient un personnage à part entière. On sent à la fois l'attachement, la fidélité, mais aussi ce poids qui empêche d'aller ailleurs.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En 2005, deux jeunes adolescents, Ziad Benna et Bouna Traoré, meurent dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Ils s'y étaient réfugiés pour échapper aux policiers qui les coursaient. Cet événement tragique est un des points de départ de plusieurs semaines de révolte qui trouvent leur origine en Seine-Saint-Denis et s'élargissent aux quartiers populaires de toute la France. 20 ans après, un livre arpente ce département pour substituer aux portraits médiatiques violents des récits et des images plus précises, plus plurielles, plus nuancées, plus historiques, plus pensées, en somme. Le journaliste Antoine Tricot y marche et écrit une histoire de la Seine-Saint-Denis en compagnie de chercheurs et d'habitants, en variant les focales. C'est aussi le pluriel, la fiction et la première personne qu'a choisi le journaliste et romancier Ramsès Kéfi pour tisser, dans un recueil de nouvelles qu'il dirige et à travers son premier roman, des histoires susceptibles de renouveler les imaginaires. Ramsès Kéfi et Antoine Tricot sont nos invités. Ensuite, et comme chaque mardi, on parle littérature jeunesse avec Mathilde Wagman. Aujourd'hui, des personnages de Vers de Terre. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Ramsès Kéfi.
Bonjour.
4 jours sans ma mère, c'est le titre de votre roman paru en cette rentrée littéraire aux éditions Philippe Rey. Bienvenue dans Book Club, on est ravis de vous recevoir.
Le plaisir est pour moi, merci beaucoup.
Il est pour nous. Et vous dirigez, je le disais, c'est un recueil de nouvelles, mais un recueil de contes en réalité qui s'appelle Le Retour du Roi Djibril. Et c'était paru aux éditions L'Iconoclaste. On va essayer de tisser ces deux livres avec le vôtre. Antoine Tricot, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir aussi à ce micro. 93, une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil et qui est inspiré mais retravaillé d'une série, je le signale parce que ça se sent dans l'art du montage, d'une série sonore produite avec Making Waves qui s'appelait Penser le 93 ou le 9-3. Bienvenue Antoine.
Merci.
On est ravis de vous recevoir ici dans le Book Club. Vous signez plusieurs documentaires pour France Culture, notamment Ce souvenir de Sam pour la case LSD. On est ravis de vous recevoir tous les deux. Il se trouve, je vous le disais juste avant de prendre l'antenne, qu'au moment où on est en train de penser cette émission, et peut-être que voilà, on reviendra sur le fait que nous avons pensé cette émission 20 ans après 2005, évidemment. Il se trouve que j'ai regardé un film qui s'appelle « Faire kiffer les anges », qui est un film de Jean-Pierre Thorne, tourné en 95 et sorti en 96, et qui entend la parole de nombreux artistes liés à la culture hip-hop début des années 90, toute fin des années 80, dans différents endroits, et tout particulièrement dans des quartiers périphériques, des quartiers banlieues, des quartiers populaires, selon la manière dont ils se désignent. Et je voulais qu'on commence cette émission avec la voix de Nordine. Lui, il est graffeur, et il parle en 1995.
Et c'est ça, la France, ça, ils agissent toujours dans l'urgence. Tout se passe toujours dans l'urgence. Tant qu'il n'y a pas le feu, les pompiers bougent pas, quoi. Ils débroussaillent pas avant. Non, ils viennent, ils attendent que ça crame bien et après ils viennent. On est la génération grillée, nous. On est la génération qui s'est le plus rebellée et qui a été le plus grillée. Et ceux qui arrivent derrière, ce qu'ils craignent, c'est que ça va être encore pire pour eux. Nous, on se dit encore, on a une partie de notre jeunesse derrière nous. On est des adultes. Et les petits jeunes qui arrivent derrière, qu'aux 14-15 ans, ça va être grave pour eux. Franchement, ça va être grave. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont encore plus chauds que nous, on est à leur âge. Ils ont moins peur des flics, moins peur des institutions. Ils sont plus violents. Alors, s'il y a confrontation, ça risque de faire des dégâts. D'autres questions ?
Il est très beau, ce film de Jean-Pierre Thorne qui s'appelle « Faire kiffer les anges ». Et voilà cette parole-là qui est prononcée en 1995 par cet artiste qui s'appelle Nordine. À la fois, elle est extrêmement lucide, elle est percutante, elle est insolente à la fin, d'autres questions. Et moi, elle me fait froid dans le dos parce que j'ai l'impression d'une répétition, en fait. C'est-à-dire que Nordine, ce graffeur, dit « Les petits qui viennent après nous, ils sont encore plus énervés et ça va cramer ». Et puis ensuite arrive 2005, et puis aujourd'hui 2025, qu'est-ce qu'on entendrait si jamais on tendait des micros ? Probablement plein d'autres choses, et c'est aussi le travail que vous proposez. Est-ce que c'est aussi pour sortir de la répétition d'un certain discours, Ramsès Kéfi, que par exemple vous êtes lancé dans ce recueil de nouvelles, Le Retour du Roi Djibril ?
Bah, le retour du roi de Djibril, je l'ai co-dirigé avec Rachid Lairech, je précise. Oui, parce que...
Qui est aussi journaliste.
Qui est aussi journaliste et auteur. En fait, je me suis lancé dans la fiction parce que la fiction permettait de remettre de la normalité. C'est vrai que quand on parle des quartiers populaires, des banlieues, je mets un S à banlieue. Il y a toujours ce côté exceptionnel, soit dans le côté hyper grave, ça crame, c'est dur, les relations sont brutales, c'est toujours des femmes sous le joug des hommes, etc. Ou bien c'est le côté exceptionnel, le conte de fées. Et en fait, il y a aussi une normalité, et cette normalité rassemble. C'est-à-dire que
il y a même probablement surtout une normalité.
Exactement. Et donc, cette normalité rassemble. C'est ce qui fait que les quartiers populaires ont des histoires, les gens des quartiers populaires aussi des parcours qui ressemblent à tout le reste de la France, en fait. Donc, cette normalité, elle a souvent été mise de côté, parce qu'on a l'impression que les habitants des quartiers n'y ont pas droit, en fait. Donc, la fiction permet de mettre de la nuance, de la tranquillité, de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. Autant de sentiments qu'on voit pas forcément dans certaines œuvres cinématographiques, médiatiquement parlant. Mmh. J'en parle en tant que journaliste, donc je me mets dedans aussi. Et donc, ça nous permet de mettre de la douceur, d'apaiser tout ça, et aussi de raconter des choses plus complexes. Donc, ouais, évidemment, ces contes et ce roman, c'est une ode à la normalité.
Et à l'imaginaire, parce qu'on y viendra, mais en plus de la normalité, il y a du rêve, il y a des noms d'oiseaux, des noms d'animaux, il y a des images. Il y a aussi la création d'autres images que celles qui circulent en boucle depuis tant d'années, Ramsès Kefi.
Évidemment, mais ça, pour nous, c'est la normalité. C'est-à-dire que
bien sûr.
Quand on regarde à la télévision, par exemple, on n'a pas l'impression de ça. Pourquoi dans les quartiers populaires, vous avez des gens qui savent jouer d'instruments de musique? Des femmes qui chantent merveilleusement bien.
Mais c'est pas une folie de devoir le dire, Ramsès Kefi?
Bien sûr que c'est une folie. Et c'est pour ça que quand vous racontez la normalité, j'en dis, ça fait du bien, vous faites du positif. Mais c'est juste normal. En fait, c'est pas des livres gnangnan, neuneux, où en fait on dit que tout est rose. Non, on prend l'équilibre. En fait, la normalité, c'est des bonnes choses, des mauvaises choses, et la vie normale, en fait. Donc, c'est très marrant, parce que parfois, sur ces livres-là, on me dit, c'est extraordinaire, c'est optimiste, c'est une note d'espoir et tout. Moi, je dis que c'est juste la normalité, en fait. Et c'est parce qu'on est arrivé à un côté très obscur, y compris dans les relations humaines. Toujours que l'impression, l'amour, c'est dur, l'amitié, c'est les bandes pour faire un truc grave et tout. Alors qu'en fait, vous avez des gens, chacun est dans son monde, vous avez des parcours différents. Et ça fait très, très, très longtemps que des gens vivent cette normalité avec douceur et tranquillité.
Alors, qu'est-ce qui est sclérosé? Qu'est-ce qui est coincé dans les histoires? Puisque, par exemple, cette phrase-là de 1995, qui est à la fois réelle, prononcée par Nordine dans ce film-là, quasiment en ouverture, je pense qu'elle a pu être redite 10 ans plus tard, puis 20 ans plus tard, puis peut-être qu'elle serait redite aujourd'hui, y compris dans la manière de se formuler, c'est-à-dire qu'il il y a des personnes qui parlent d'eux-mêmes en utilisant un discours déjà tout fait de les pompiers, les sacrames, la banlieue c'est ça, les cités c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression, moi, de quelque chose qui se répète inlassablement dans la manière de parler de banlieue avec un S, quartier populaire ou quartier périphérique.
Bien
pourquoi
sûr. Bah, pourquoi c'est une vraie question. Est-ce que c'est aussi une feignantise de la part des gens qui veulent la raconter? Et je me mets pas au-dessus, je me mets aussi dedans. Je fais pas de constat perché au-dessus de mon arbre. Mais peut-être que c'est de la feignantise. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on a encore une vision des quartiers populaires très grise. On parle très peu, et Antoine le fait très bien dans son livre. Il raconte aussi tous ces quartiers populaires qui sont il y a du vert, il y a des arbres, il y a des pavillons. Parfois, les gens disent encore les grands ensembles, alors que les grands ensembles n'existent même plus dans certains endroits. J'ai lu des reportages, moi, sur des villes que je connais très bien, et on dit les grands ensembles, mais il n'y a plus de grands ensembles, en fait. Donc, il y a aussi une forme de feignantise, et ce côté un peu passéiste. C'est-à-dire que, peut-être que dans les quartiers populaires, on met moins de soin à raconter. On a cette vision qui est une sorte de fantasme.
Les journalistes, la fabrique médiatique et ou les habitants de ces quartiers populaires?
Bien sûr que c'est la fabrique médiatique, et les habitants des quartiers populaires aussi, parfois, sont dans la nostalgie. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait se méfier du côté de ce refrain de « c'était mieux avant ». C'était juste différent, en fait. C'est-à-dire que Nordine, dont vous avez passé la voix tout à l'heure, il dit « mais les petits, c'est pire qu'avant, c'est plus violent ». Moi, je sais pas, en fait. C'est-à-dire que pour moi, je sais pas. En fait, on dit ça, mais moi, j'ai vécu des choses où je me dis, finalement, les petits sont bien plus gentils que ceux de l'époque. En fait, c'est des contextes différents. Moi, j'insiste sur la pluralité des quartiers populaires, la façon dont on les a vécus, les histoires de chaque ville, chaque quartier, chaque cité HLM. Mais je sais pas si c'est plus violent aujourd'hui. C'est juste que, comme vous dites, il y a une répétition, mais cette répétition, je pense qu'elle est beaucoup due à la fainéantise. C'est une fainéantise globale, mais aussi une grande fainéantise médiatique, qui est de se dire que ça change pas. Moi, je trouve que les quartiers populaires ont changé, moi.
Cette fainéantise-là, il me semble que vous y répondez, Antoine Tricot, avec un projet d'écriture, un projet d'arpentage, de marche et d'écoute, qui fait peut-être, ou bien ce que n'a pas le temps de faire la majorité de la production médiatique, ou ne se donne pas le temps de faire la majorité, c'est-à-dire de sortir des récits tout faits, mais aussi, ça tient à ça, parfois peut-être on pourra raconter ça, Ramsès Kefi, puisque vous avez écrit pour Libération, vous travaillez pour un journal, c'est... Qu'est-ce que ça demande comme travail d'aller écouter autrement et d'autres personnes que les quatre personnes qu'on entend tout le temps, quoi.
Moi, j'ai commencé à travailler sur les quartiers populaires à Dunkerque, dans le Nord. Et effectivement, dans une ville qu'on ne connaît même pas, Saint-Paul-sur-Mer, qui est fusionnée avec Dunkerque, dans un quartier populaire qu'on connaît encore moins, qui s'appelle Jean-Barguignemer, et qui montre bien ce dont parlait Ramsès, de cette diversité des quartiers populaires en France qui tranche totalement avec l'image bétonnée, homogène qu'on a des banlieues. Et effectivement, je me suis retrouvé, moi, venant du Cantal, de l'Auvergne, des volcans, des pentes vertes, des vallées de par là-bas, au milieu d'un univers qui n'était pas le mien. Et j'ai voulu justement dérouter, en fait, ce qu'on m'enjoignait à faire, c'est-à-dire, en tant que jeune journaliste blanc, aller parler des quartiers populaires que je ne connaissais pas. Et face à ce dilemme, effectivement, j'ai résolu ça grâce à l'écriture, avec cette volonté de se dire, en fait, moi, je vais faire ce que font pas les journalistes, c'est-à-dire je vais passer à côté du fait divers, je vais passer à côté de l'événement. Et du coup, effectivement, quasiment refuser l'obstacle, refuser le travail de journaliste en disant il faut que j'invente une narration dans laquelle il y aura autre chose qu'un événement, autre chose qu'un fait divers. Et qu'est-ce qui reste, en fait, quand on sort de l'événement, quand on va dans la banalité? Tu parlais, Ramsès, de normalité. Moi, j'utilise beaucoup cette notion de journaliste de la banalité. En fait, il reste la parole des personnes qui vivent dans ces endroits-là. Et travaillant avec l'outil radiophonique, en prenant du son, travaillant pas au carnet comme journaliste de l'écrit, etc., en fait, je vais fixer cette parole-là et la travailler comme un montage qui va permettre d'être le plus fidèle possible à cette parole donnée, à cette expérience vécue, à cette expertise du territoire qu'on entend trop peu souvent parce qu'on est feignant. Moi, je pense qu'on est surtout focalisé sur un écran de notre mauvaise conscience. Je vais pas faire une psychanalyse un peu facile de la France, etc., mais j'ai l'impression effectivement qu'on a refoulé dans les quartiers populaires, dans les périphéries, tout ce qui nous fait mal en tant que société et tout ce qu'on n'arrive pas à penser, ou en tout cas ce à quoi on ne se confronte pas, en particulier l'histoire coloniale, en particulier les violences policières, en particulier le racisme, la ségrégation raciale, etc. Tous les sujets qui sont effectivement dans ce livre et qui surgissent de la parole des habitants du 80.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tendre l'oreille vraiment ou regarder vraiment, ça veut dire regarder tout ça. Et donc finalement, se satisfaire d'un discours réducteur, cliché ou répétitif, ça permet de ne pas regarder tout ça et de ne regarder que l'événementiel, le tragique. Bon. En même temps, c'est vrai que nous, par exemple, nous avons programmé cette émission parce qu'on s'est dit, 20 ans après la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré, qu'est-ce qui aurait bougé dans la possibilité de raconter ces endroits où malheureusement ces adolescents sont morts? Et c'est quand même partant de ce tragique-là, et c'est souvent partant, malheureusement, d'événements tragiques, durs, marquants, que la question des quartiers périphériques, et en effet des quartiers populaires, banlieues, etc., ressurgit. Vous voyez ce que je veux dire? Et de même, vous mentionnez la mort de ces deux adolescents en introduction, Antoine Tricot.
Oui, alors je mentionne la mort de ces deux adolescents, mais moi, le livre, il arrive 20 ans après les révoltes de 2005. Pour moi, la commémoration de la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré, et puis des mutilations de Mouattine Altoun, on l'oublie souvent, qui étaient aussi dans les mêmes conditions, elle bloque, en fait. C'est important de s'en commémorer, bien sûr. C'est important de montrer la violence policière, la redondance,
les résonances. Il faut entendre les révoltes qui viennent après.
Mais pour moi, on oublie le côté politique des révoltes derrière. Et en fait, encore une fois, malheureusement, à leur corps défendant, la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré empêche de voir ce mouvement politique essentiel de notre contemporain qu'ont été les révoltes de 2005. Et moi, je me pose la question dans ce livre de pourquoi les révoltes de 2005 naissent à Clichy-sous-Bois, au cœur de la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, qui est devenue vraiment cette espèce de fantasme ambulant de tout ce que serait la banlieue et son image négative. Mmh. Et en fait, on ne peut pas répondre à cette question. Bien sûr, c'est multifactoriel, ça peut se passer à côté, à Villiers-le-Bel, ça peut se passer à Nanterre, etc. Mais par contre, se poser la question, ça permet de se dire quelle est toute cette histoire qui a produit la Seine-Saint-Denis et cette image négative qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiel de remettre là-dedans tout ce qui est politique. En fait, tout le livre parle de ça, de comment on construit cet événement politique que sont les révoltes de 2005 et quelles sont les causes qui, justement, et la répétition en est l'une d'elles, et surtout le refoulement des questions que soulèvent ces révoltes, pour moi, est la cause principale du fait qu'on a l'impression qu'on revive toujours la même chose. Il y a une résonance très forte dans le livre qui est qu'au moment où on est à Clichy-sous-Bois, on lit la plaque commémorative à la mort de Zayed Bena et Bouna Traoré. Donc Zayed Bena qui avait 17 ans, moi j'avais le même âge en 2005, Bouna Traoré en avait 15. Vous introduirez le cousin de Mariam Cissé qui lit cette plaque à Clichy-sous-Bois. Et dans un autre chapitre, à Saint-Denis, on lit la plaque du 17 octobre 1961. C'est Yasmina Bédard qui lit cette plaque et qui, elle, a perdu le 17 octobre 1961 sa cousine qui avait 15 ans à l'époque, qui s'appelait Yasmina Bédard. Deux jeunes racisés de 15 ans qui, un en 61,
et c'est exactement à cette horreur de la répétition que je voudrais que répondre. Alors évidemment, on a une heure de radio, mais c'est exactement faisant le constat d'un retour du même, et d'un retour du même sur le registre de la violence, quand bien même peut-être qu'on ne peut pas comparer le 17 octobre 1961 à 2005 Clichy-sous-Bois, mais néanmoins, il y a quelque chose qui se répète. De la même manière, Antoine Tricot, qu'il y a quelque chose qui se répète dans la police coloniale et une certaine manière du contrôle des corps à Alger, notamment montré par Rigouste, et la manière dont le contrôle des corps et le contrôle policier et la violence policière s'exercent dans les quartiers populaires. Il y a un retour du même qui est sidérant.
Bien sûr, il est sidérant. Je pense qu'avec Ramsès, on met toute notre force à notre maigre mesure pour pouvoir faire
enrayer ce retour du même.
Ce retour du même, parce que ce retour du même, pour moi, il est non seulement malaisant, mais il a des origines politiques. Il ne faut pas faire comme si on n'était pas face aujourd'hui à une fascisation du pays et du monde en général qui a ramené des façons de faire coloniales encore plus fortes que ce qu'elles avaient pu être dans les années d'avant. Effectivement, il faut beaucoup se méfier de « avant c'était mieux ». En plus, ça me fait écho à tout ce que dit le sociologue Benoît Coquart sur la ruralité d'où je viens, où cette parole du « avant c'était mieux » était très présente. Avant c'était le fascisme. Et, alors pas toujours, mais en tout cas on a cette mémoire très forte. Et avant c'était le colonialisme. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se voir que on peut, aujourd'hui, peut-être aussi, c'est le fascisme et le colonialisme avec tout ce qu'elle a d'horreur, etc. Et je pense que pour enrayer ce discours, il faut effectivement, à notre maigre mesure, produire des narratifs qui changent de perspective, offrent de nouveaux horizons. Et l'optimisme de Ramsès Kefi, pour moi, il est là. Il ouvre un horizon parce qu'on parle du quotidien, de la banalité, qui n'est pas dans cette répétition.
Et il y a quelque chose dans la manière dont vous ouvrez l'un et l'autre de nouvelles narrations, ou du côté de la fiction, ou du côté du journaliste narratif, justement, mais qui ne perd pas l'épaisseur du temps. On va entendre un extrait d'une émission d'expérience signée par Myriam Rabat-Konaté, et tout de suite après, un extrait de votre roman Ramsès Kefi.
Ce côté-là encore qu'ils ont en train de construire, je ne sais pas quoi, tu te rappelles qu'il y avait un ancien café là?
Oui, ouais, ouais.
Après, il y avait un boucherie, franchement marocain. Il y avait un. Là, qui fait les ongles, quoi. Après, il y avait une boutique qui vend le chocolat. Après, il y avait l'ancien marché couvert. Après, il y avait le manège. C'était content, les enfants, ce manège-là, il était là pendant des années. Les enfants, ils vont y aller avec leurs parents pour faire le marché. Après, ils vont faire un tour de manège. Ils étaient tellement contents. Là, on voit les bâtiments, on entre des bâtiments, on sort des bâtiments. C'est ça, on voit que ça. Je prends tout le bus, il y a du monde. Il y a du monde. 146, 148, 143, le 248. Ça dépend les heures, mais on dirait que c'est tout le monde, il vient vivre ici. En 93.
Le soir, le bus 789 passe une fois par heure dans cette zone d'activité sans nom, inconnue des GPS, qui entre en fusion les week-ends. Deux salles de mariage, une chocolaterie pour diabétiques et un centre évangéliste coexistent avec des bureaux immaculés où personne ne sait vraiment qui fait quoi. Ma mère a toujours refusé qu'on vienne la récupérer en voiture, parce qu'elle haïssait l'impatience de ces deux hommes au volant et leur coup de sang pour un feu vert trop bref. Parce qu'elle adorait le 789, qui roule à la vitesse d'une carriole entre les rues de communes Rikiki, aux blazes médiévaux. Sur la carte des arrêts, le nom originel de notre quartier apparaît encore. La caverne des oiseaux. Le bus ne s'aventure pas entre nos tours. Les espaces sont trop étroits, ce qui obligerait les chauffeurs à des manœuvres d'aviateurs. Une solution fut envisagée par la mairie, raser le City Stade, sous la tour Goéland, pour ouvrir un passage. Les caverniens s'y sont opposés. La gardienne a convaincu notre peuple que l'éradication du City Stade entraînerait d'autres démolitions. C'est comme les tatouages. T'en fais un et ensuite t'en fais un autre pour harmoniser, et puis un autre. Le bus s'arrête ainsi 100 mètres avant la cité, au niveau du terrain de pétanque, de la mission locale et de trois commerces, une boulangerie, une pharmacie et une boucherie. Dans le 789, Amani avait son rituel de la pré-taf. Elle s'enfonçait dans le fauteuil, juste derrière le fauteuil, du chauffeur. Et pendant les trois quarts d'heure qui la séparent de la maison, elle fermait les yeux. C'est dans ce bus qu'elle a fait le plus beau rêve de sa vie. Elle chantait en duo avec Dalida.
Un extrait de votre livre Ramsès Kefi, 4 jours sans ma mère, et ce voyage en bus qui est presque une sorte de travelling en fait dans le territoire, à la fois un travelling horizontal mais presque un travelling aussi vertical, comme si vous pouviez juste avec un trajet de bus comme avoir une sorte de carotte quoi en archéologie et faire vivre l'histoire. Comment on fait justement pour trouver une sorte de solution à la fois politique et narrative qui serait pas être dans c'était mieux avant, la nostalgie et blablabla blablabla, et la conservation d'une mémoire qui rend vivant, qui permet de vivre sur un endroit.
Ben, on va revenir aux médias ou à la question médiatique. Il est vrai que déjà c'est beaucoup plus difficile dans des médias traditionnels de faire passer des sujets, différents sur les quartiers populaires. La mémoire, c'est un sujet différent. Quand on parle de la mémoire des quartiers populaires, on a un peu plus de méfiance. Pourquoi, comment, ça va intéresser qui? Et c'est vrai que c'est souvent dans les commémorations dont t'as parlé tout à l'heure que ça se passe. Mais pour qu'on conserve une mémoire, il faut déjà qu'on puisse raconter et qu'on puisse avoir une diversité de sujets, médiatiquement parlant. Si on reste sur les faits divers et sur quelques sujets dits positifs, on va pas y arriver. Moi, la nostalgie, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Parce que dans ce livre, c'est aussi une génération qui est dans l'entre-deux.
Peut-être on raconte simplement l'argument du roman. Donc en fait, c'est, comme dans pas mal de romans en ce moment, ce qui est très intéressant, une femme qui part, une mère qui s'absente et qui laisse quelque chose, qui laisse un espace potentiellement vide ou ouvert pour son fils. Voilà, je referme la parenthèse.
Exactement, et ça se passe dans un quartier populaire. On aurait presque l'impression que cette histoire ne pourrait pas s'y passer. Puisque, voilà...
Mais parce que quoi? Parce qu'elle prend la liberté de le faire.
Parce qu'elle est libre déjà. Mmh. À la base, c'est l'histoire d'une femme libre. Mmh. Elle a jamais été sous le joug d'homme et tout comme.
Et dont on va découvrir petit à petit l'amplitude de la liberté en plus.
Exactement. Parce que quand on dit femme de ménage, par exemple, dans les quartiers populaires, on a l'impression qu'elle est femme de ménage et qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'histoire avant et tout, etc. Et on assigne les gens à une sorte de profession et on dit elle est femme de ménage comme si elle était.
Début et fin de l'histoire, femme
exactement.
De ménage.
Exactement. Mmh. Alors que non, moi, en tout cas, pas pour moi. En tout cas, et la fiction le permet. Mais pour revenir à la question, je pense que la nostalgie est une ennemie et quand elle est consommée sans modération. Et en l'occurrence, sur les quartiers populaires, on est prisonnier de cette vision nostalgique. Et ce livre, un peu, ça raconte ce conflit entre les nouvelles générations aussi, entre ce qui se passe, les grues, comme dans le livre d'Antoine, où en fait, il y a des choses qui se cassent, on a un univers qui est en train de disparaître parce que les usines disparaissent. Mmh. Mais il faut le prendre en compte, en fait. Il faut aussi le raconter. Moi, ce que je fais dans mon travail de journaliste, dans les quartiers populaires, même en étant issu des quartiers populaires, je pense pas être un expert. Chaque quartier, il a son histoire, il a ses personnages et tout. Quand les gens me disent, ouais, c'était mieux avant, je dis, ok, c'était mieux avant. Et après? Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et on remet les choses dans le présent. Et ça, c'est important. Donc, ce livre, c'est un peu un mélange des époques, un petit conflit entre passé, futur, présent. Et c'est une manière de dire que, la nostalgie peut être une prison. Donc pour moi, c'est aussi une manière de dire que les quartiers populaires évoluent à une vitesse qu'on ne soupçonne pas. Mmh. Sauf qu'il faut nous laisser le raconter comme tel.
Cette évolution-là, elle prend tout en compte. C'est à la fois une évolution, on l'entend vraiment dans ce petit paragraphe qui est une sorte de travelling, je le redis, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une évolution des commerces, des territoires, évidemment des visages, des corps, des enfants qui naissent, des vieux qui meurent, mais aussi tout un passé du rapport au travail, des métiers qui changent. Il y a vraiment quelque chose qui bouge en effet à la vitesse grand V. Est-ce que ça bougerait plus qu'ailleurs ? Parce que vous dites, on a presque à peine le temps de le regarder.
Non, ça bouge pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai que, en fait, il y a la mémoire, comme vous dites, à savoir qu'il faut garder ces traces, laisser les gens raconter ça, donner la parole aux gens, et pas forcément, parfois on a des émissions sur les quartiers populaires, il y a pas de jeunes, il y a pas de gamins, et on dit c'était mieux avant, mais c'est des gens de 50, 60 ans. Et moi, je suis pas dans l'idée que les générations, il faut bannir des générations et tout, mais c'est que lorsqu'on parle du présent, ou lorsqu'on parle de l'actualité des quartiers populaires, autant ramener des gens qui y vivent encore, qui le vivent en tant que jeunes. J'en parle parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions, durant les commémorations de Ziad et Bouna.
Et où il y avait pas la parole à des jeunes gens?
Bah, ouais. En fait, on a des gens qui vivent leur adolescence, leur vie de jeunes adultes dans ces quartiers populaires, et on les a, je trouve, très peu entendus dans des médias qui ont une caisse de résonance. Mais moi, je suis pour qu'on sépare la poire en deux, qu'on garde cette mémoire et qu'on y travaille, mais aussi qu'on regarde les quartiers comme ils sont aujourd'hui, comme ils évoluent. Et c'est comme partout, en fait. Il y a une architecture qui évolue, il y a une mentalité qui évolue, il y a des gens qui ont effectivement des problèmes à l'école parce que l'école publique, ça devient de plus en plus catastrophique, mais aussi des gens qui ont un parcours scolaire magnifique. Et en fait, il faut qu'on raconte ce présent comme il est. Sauf que on est prisonnier, on est encore prisonnier, ou en tout cas un peu à l'étroit. C'est comme si aujourd'hui je mettais un pyjama XS. On est un peu à l'étroit, on est toujours derrière à chercher cette nostalgie. Et la nostalgie, c'est une facilité. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on parlait de politique tout à l'heure, le « c'était mieux avant », c'est un mal d'époque. En quoi c'était mieux avant? Comment on sait que c'était mieux avant? Vous avez des gens aujourd'hui, ils ont 30, 40 ans qui arrivent à la télé ou qui arrivent à la radio et qui nous disent « c'était mieux avant ». Mais c'était mieux avant de quoi, en fait? C'était juste que c'était différent. Travaillons sur la mémoire, mais travaillons aussi sur le présent.
Quelle place vous faites justement à cette stratification du territoire, Antoine Tricot? Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué dans votre entreprise de narration et de journalisme, c'est la manière dont vous marchez. Et vous dites même, marcher en Seine-Saint-Denis, c'est politique. Le temps de ce pas, le temps du vélo, mais encore plus le temps de ce pas, comme si ce pas-là, accompagné des habitants, des militantes, des chercheurs, des chercheuses, ce pas-là vous permettait de prendre en compte l'histoire du territoire.
Oui, tout à fait. Déjà, il y a une question de rythme de la marche. Après, il y a une petite ironie et une petite blague avec ces no-go zones dans lesquelles on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait pas aller. Là, c'était faire la preuve par l'expérience qu'on pouvait aller marcher partout en Seine-Saint-Denis et qu'il ne nous arrivait rien, comme le dit à un moment l'historien Emmanuel Bélanger à la Courneuve, en disant voilà, en fait, ce qu'on voit, c'est des gens heureux en banlieue quand on marche en Seine-Saint-Denis.
Après, pas que, on ne va pas non plus livrer une vision
bien complètement... Bien sûr, mais c'est ce qu'on ne voit pas souvent ailleurs, en fait, et cette banalité du bonheur de simplement vivre quelque part et s'y sentir bien, ou en tout cas s'y sentir appartenir, elle est peu palpable, effectivement, dans le récit médiatique. Et c'est quelque chose qui est très difficilement dissible, qui a peu de place dans les narrations. En tout cas, ce qui est important pour marcher, c'est aussi, effectivement, de traverser des territoires qui sont tous très différents, voir des paysages qui s'empilent, mais aussi voir peut-être une sédimentation, pour reprendre le terme, d'une histoire qui est souvent oubliée. Alors certes, il y a de la nostalgie, souvent, cette nostalgie, elle fait aussi écran à une véritable histoire des quartiers populaires. Alors, il y a une transmission orale d'énormément de choses, notamment de 2005, par exemple, des révoltes, etc., de la violence de la police,
mais pas
de l'histoire coloniale.
Mais pas que, il y a aussi l'histoire du communisme, par exemple, il y a aussi l'histoire du bâti, puis l'histoire de la destruction que ce bâti. J'ai l'impression que quand même, à chaque fois, bien sûr, vous marchez dans le présent, mais que vous faites une place, l'histoire de l'industrie, des usines.
Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est au-delà de la nostalgie, quand on marche dans le territoire, on se rend compte, effectivement, de cette histoire plurielle dont vous venez de parler, cette histoire longue, effectivement, qui remonte quasiment à la deuxième révolution industrielle, l'arrivée des trains. On revient là, à la Courneuve, quand arrive la gare de la Courneuve, arrive la métallurgie, quasiment. C'est quasiment instantané. Et la nostalgie, je trouve, finalement, des quartiers populaires, à la mémoire courte. Et on oublie, en fait, de relier cette...
La nostalgie n'est pas l'histoire, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Elle est aussi encore un écran à la complexification de ce qui nous entoure. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en commençant à travailler sur un quartier populaire il y a une douzaine d'années, c'est le fait qu'on avait fait une forme de rupture entre quartier populaire et ville ouvrière. Et pour moi, j'essaie depuis de retisser ce lien en permanence entre cette histoire ouvrière, cette histoire industrielle, cette histoire des ouvriers. Et comme le dit Emmanuel Bélanger, l'historien dans le livre, tous les ouvriers viennent d'ailleurs, que ce soit de France et d'au-delà. Et du coup, et des histoires qui du coup en découlent. L'histoire des migrations, l'histoire de la ségrégation raciale, l'histoire coloniale qui vient s'inviter aussi parce qu'on va ramener les policiers qui ont appris à être policiers dans l'Algérie coloniale, etc. pour garder les gens qu'on a fait venir des anciennes colonies pour travailler dans les usines en Seine-Saint-Denis, par exemple. Et puis ensuite, la désindustrialisation, qui est une rupture hyper importante et dont qui en parle aujourd'hui encore dans les médias. En fait, les médias sont, eux, prisonniers d'un présentisme permanent où, en fait, on va parler d'un fait divers dans un quartier populaire en oubliant la plupart du temps que ce fait divers, il est le produit d'une histoire, en fait. Et remettre toute cette actualité-là dans une histoire permet de mieux comprendre ce qu'est un quartier populaire, non seulement pour les gens qui les regardent de loin, comme moi qui viens du Cantal, même si je me suis installé...
Mais qui vivait à Saint-Denis quand même.
Voilà, j'ai passé 10 ans à Saint-Denis. Et effectivement, à la fois les gens dans les quartiers populaires qui... en fait, subissent aussi une perte de mémoire qui est le fait de la rénovation urbaine qui fait exploser les communautés, qui casse la transmission. Et c'est super qu'on ait eu cet extrait du très beau documentaire de Myriam Rabat-Konaté, parce qu'il dit très bien ça. Il dit très bien comment, en fait, cette nostalgie, elle est aussi l'écume d'une disparition annoncée de ces espaces, et les rénovations prennent énormément de temps. Et donc, pendant très longtemps, on sait que le quartier va être détruit, qu'on va être séparé, qu'il va se produire cette rupture, cette pression permanente. Elle ramène forcément à de la nostalgie, à ce petit manège qu'on va perdre, en fait, alors qu'il était le cœur vivant du
Mais là
du
encore, quartier. C'est presque, à vous entendre, Antoine Tréco, une sorte d'image écran qui ne permet pas d'entendre toute la complexité derrière. Finalement, j'ai l'impression que depuis le début, cette histoire des banlieues, quartiers populaires, quartiers périphériques, c'est presque une sorte d'exemple, mais de très grand exemple, de la difficulté qu'aurait un discours dominant, on va dire, majoritaire ou médiatique, à parler de choses complexes. C'est comme si ça, c'était le meilleur exemple pour démontrer comment on n'y arrive pas, comment c'est super difficile, ou pourquoi on ne veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était le truc, l'exemple parfait.
Oui, parce que moi, je parle en tant que campagnard des quartiers populaires, en m'imaginant toujours, j'essaye de parler des quartiers populaires comme j'aimerais qu'on parle des campagnes. Et on pourrait avoir exactement la même
conversation
sur comment on parle du Cantal, par exemple.
Sans nuance, sans complexité, sans profondeur de champ.
En parlant que d'agriculture, alors qu'aujourd'hui, l'agriculture représente une poignée de pourcentage de l'activité dans les campagnes. Donc effectivement, on a du mal ensemble à penser la complexité. Alors la littérature, bien sûr, nous y enjoint, le travail documentaire aussi, en fait. Et moi, en tout cas, dans cet arpentage où j'essaie de collecter au fur et à mesure de la marche des paroles, des paysages, etc., je me dis, en documentant, en fait, cette réalité dans toute sa complexité, parce que, par exemple, on parle du jardinage, à un moment, ça paraît anodin. Le jardinage fait remonter tous les rapports de domination qu'il peut y avoir sur les personnes de la Seine-Saint-Denis, les mauvaises représentations. On dit, ils savent pas jardiner. Mais en fait, si, les gens apportent de l'endroit d'où ils viennent souvent des traditions de jardinage très riches. Il y a toute une idée aussi de la pollution, en fait, qui va revenir dans le jardinage. Si on cultive une terre où il y a eu des usines, forcément elle est polluée. Revient la question de la santé, de l'alimentation. Quel est l'accès aujourd'hui d'une alimentation saine pour les habitants des quartiers populaires? Et en fait, on voit comme quelque chose qui paraît hyper anodin. Un jardin partagé à Villetaneuse par des habitants peut recouper énormément de choses très diverses, très complexes qu'il faut raconter. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a plus le choix face à cette extrême droite qui monte et qui s'attaque aux quartiers populaires particulièrement fort. Il faut remettre cette complexité au centre du discours.
Notamment par la littérature. Julien, auditeur du Book Club, a lu votre roman « 4 jours sans ma mère ». Ramsès Kefi, on l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour Ramsès Kefi. J'ai lu 4 jours sans ma mère et franchement, je l'ai dévoré d'une traite. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est le fils. Parce que face à l'absence de sa mère, il se retrouve confronté au vide de sa vie. Et pourtant, on découvre qu'il est universitaire, mais il refuse de quitter sa banlieue. Il préfère rester avec son meilleur ami, comme un ado éternel qui ne veut pas grandir. Et c'est ce choix qui m'a interpellé, parce que la banlieue n'est alors pas juste un décor, elle devient un personnage à part entière. On sent à la fois l'attachement, la fidélité, mais aussi ce poids qui empêche d'aller ailleurs. Alors ma question, elle est, qu'est-ce que vous vouliez montrer de la banlieue à travers ce personnage? Est-ce que c'est plutôt un refuge, une résistance ou un enfermement? Merci pour votre réponse.
Merci Julien pour cette belle lecture argumentée dans un book club de France Culture qui s'intéresse aux nouveaux imaginaires Ramsès Kéfi. À quoi ça vous sert ou qu'est-ce que vous vouliez fabriquer avec ce personnage du fils?
Bah merci à Julien déjà pour sa lecture et sa question. Bah le personnage du fils, c'est plein de choses en même temps. D'abord, c'est la preuve qu'il existe des enfants gâtés dans les quartiers populaires. C'est une gamme de gens dont on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est un enfant qui a vécu dans un environnement heureux, rigolo, avec des parents qui l'ont aimé. Donc il est surcouvé. Il est tanguy extrémiste quand même, à 36 ans. Il a des diplômes, effectivement, mais ça pose aussi des questions existentielles et universelles. Est-ce que quand quelqu'un vous dit « ben j'ai des diplômes, mais je préfère travailler dans un fast-food, je paye un loyer pour garder ma chambre d'enfant et je suis heureux », qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Donc c'est une manière aussi de remettre de la normalité, puisqu'il y a ce genre de personnes qui existent un peu partout. Et je voulais aussi complexifier un peu, c'est-à-dire ne pas tomber dans des personnages, mais humblement, pas tomber dans des personnages, c'est pas l'histoire du cliché, mais trop simple en fait. C'est-à-dire que comme c'est le sens de l'émission, de l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens différents dans les quartiers populaires avec des aspirations différentes et des dessins différents. Donc l'idée c'était de dire que ce gars a une relation d'amour fort avec son quartier. Et le lecteur sait pas trop si c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est ça le but. C'est qu'en fait, moi je suis pas partisan de dire il faut quitter le quartier ou bien y revenir. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que parfois aussi, pour les quartiers populaires, il y a une sorte de notice.
Vous devriez faire ceci.
Vous devriez faire ceci. Pourquoi vous êtes pas retourné dans votre quartier? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ou pourquoi vous en êtes parti? Ben, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, en fait. Donc.
Et ce qu'ils peuvent parfois.
Ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Quand ils peuvent. Bah ils font ce qu'ils veulent. Quand on peut pas, c'est comme partout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les quartiers populaires, il y a des gens qui n'ont absolument aucun choix, mais il se trouve qu'il existe aussi des gens qui ont le choix. Et donc l'idée, c'est qu'au travers de la galerie de personnages et en l'occurrence celle de Salman, eh ben il y a un peu tout ce panel en fait des quartiers populaires.
Alors peut-être justement, puisque vous parlez de la galerie de personnages, attardons-nous un peu sur la mère, parce qu'à la fois elle part et le début du roman c'est son absence, et en même temps elle est partout, on la découvre, il y a quelque chose d'elle qui se révèle presque à l'occasion de son absence. La mère, c'est un personnage très important dans votre roman Ramsès Kéfi, et c'est aussi la mère ou les mères des personnages très importants, Antoine Tricot, dans ce que vous proposez. Peut-être un mot d'abord sur le personnage de la mère, et puis ensuite des mères que vous rencontrez dans le cadre de votre enquête.
Bah, c'est une maman forte. Ça ne veut pas dire que le père est totalement absent, mais il est absent des questions existentielles, en fait. C'est-à-dire qu'il se pose très peu de questions sur la vie, mais parce qu'il y a un secret, et lui joue sa comédie. Elle a joué la comédie, ça s'est arrêté, mais elle raconte un peu toutes ces femmes puissantes des quartiers populaires. Pareillement, on dit souvent que c'est des territoires très masculins, etc., etc. En fait, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ça aussi, ça fait partie des visions un peu figées. Et après, il peut toujours y avoir des dérives, il peut toujours y avoir des endroits où ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, mais comme partout, en fait. Et là, en l'occurrence, Amani, l'héroïne du roman, absente, présente partout.
Omniprésente.
Exactement.
Omniabsente.
C'est une femme libre et indépendante, en fait. C'est-à-dire qu'elle est, elle a une amie exclusive, elle a une vision de l'amitié, de l'amour qui est très particulière, qui est bien à elle. Elle a une vision de la liberté qui est bien à elle. Son mari lui dit, mais en fait, pourquoi tu fais femme de ménage? Tu lis des bouquins, t'es très forte.
Elle adore correspondre, elle adore écrire.
Elle adore écrire. Ah, moi, je préfère être femme de ménage, je suis solitaire, j'ai ma musique dans les oreilles, tout va bien. Et c'est pas une manière de faire de l'angélisme, en fait. C'est juste une manière de raconter des personnages qu'on voit pas forcément. Et ces femmes qu'on arrive encore à catégoriser, elles sont comme ci, elles sont comme ça, il faut qu'elles soient comme ci, il faut qu'elles soient comme ça.
Parce que, y compris, par exemple, vous dites, on croit, par exemple, qu'on a résumé une femme en disant qu'elle était femme de ménage, ouais. Et on oublie qu'elle a du désir. Mais vous rajoutez encore plus de nuances et de complexité, parce que cette femme, elle conjugue le désir à un certain endroit. Par exemple, la correspondance, et ben, peut-être que l'homme avec lequel elle correspond a plus de désir pour elle qu'il n'en a pour lui. Peut-être la question de l'amour et de la tendresse se côtoie. Toi, peut-être qu'elle, elle trouve de la passion plus dans l'amitié ou dans le fait de s'occuper d'un chat que dans un mariage. Il y a toute une gamme de, on va dire, de nuances des sentiments.
Bah, si vous saviez le nombre d'histoires d'amour extraordinaires qu'il y a dans ces endroits-là, en fait, et des histoires d'amour poétiques. Et oui, en fait, c'est vraiment un truc encore plus, comment dire, effectivement, beaucoup plus profond. Mais encore une fois, les gens des quartiers populaires n'ont pas le droit à cette complexité. J'aurais pu prendre des personnages beaucoup plus sombres, il y en a aussi dans le livre. Mais en l'occurrence, sur la, notamment sur cette question de l'amour, parce qu'on en revient au tout début de l'émission, cette question de l'amour dans les quartiers populaires, elle est et de la tendresse, c'est des questions qui sont hyper, comment dire, hyper à la marge. On a l'impression qu'on s'aime mal dans les quartiers populaires, que c'est toujours un amour dur, les amitiés sont dures. Et là, en l'occurrence, moi qui viens d'un quartier populaire, pour le coup, bah j'ai vu tout en fait, et j'ai vu des histoires d'amour extraordinaires des gens de cet âge-là, puisqu'on a toujours l'impression que les gens de cet âge-là, ils viennent du Maghreb, c'est un amour forcé, etc. Là, c'est une histoire d'amour en fait. C'est des gens qui s'aiment comme il en existe plein. Et c'est vrai que ce qui est très drôle depuis la sortie de ce livre, c'est qu'on me dit, mais vous racontez un truc hyper optimiste et tout. Mais moi, par exemple, mes parents, ils se sont rencontrés, c'est un super mariage d'amour, par exemple. Et je pense que Shakespeare, il aurait pu faire une pièce de théâtre avec mes parents. Ça aurait été super. Et viennent des, c'est des ouvriers. C'est des ouvriers issus des, de ces milieux populaires. Mais malheureusement, il y a...
Mais ça aussi, c'est une folie, Ramsès Kiffi. Tout à l'heure, je vous disais, mais c'est une folie de pouvoir juste dire cette phrase. Mais vous savez, il y a des personnes qui jouent d'un instrument de musique. Vous savez, il y a des personnes qui s'aiment à la folie. Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de penser ça? Comment ça se fait qu'on doit le... Comment ça se fait que vous devez prononcer cette phrase?
Parce qu'on a aussi une vision, la vision passéiste et cette nostalgie qui est un peu un pouf. On est tranquille dans la nostalgie, on se pose pas de questions. C'était mieux avant, ok, merci, au revoir. Mais c'est aussi cette, cet archétype des parents qui viennent, qui rasent les murs, qui parlent pas, qui disent rien, qui ont pas d'histoire. Oui. Moi, mes parents, ils sont de la génération... mon père est né dans les années 40, ma mère est née dans les années 50. Ils ont jamais dit oui, non, en fait. Mais il y a plein de parcours différents, il y a plein de choses différentes. Mais le problème, c'est que on est dans cette vision, et forcément, il y a des relents de colonialisme, et à ce moment où, en fait, on a l'impression que ils sont comme ça, et peut-être qu'il y a même le fantasme qu'ils vont un jour rentrer chez eux, qu'ils sont pas dans cette réalité et tout. Alors qu'en fait, c'est tellement plus riche que ça.
Antoine Tricot, la figure de la mère ou les figures de mère au pluriel que vous rencontrez dans l'enquête et la narration que vous faites pour penser le 93, ça ressemble à quoi ou qu'est-ce que ça vous permet de dire politiquement ?
En fait, pour moi, ce qui était important, c'est dans, au début, hein, si on parle de l'objet radio, penser le 9-3, c'était de faire dialoguer ensemble des gens qui venaient du milieu académique, qui parlaient des quartiers populaires à l'université, des sociologues, des géographes, etc. Avec des personnes qui étaient expertes du territoire, soit parce qu'elles y vivaient, soit parce qu'elles y militaient, et soit parce qu'elles y travaillaient. Et en vérité, je ne sais pas aller chercher les figures des maires en particulier. Ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une diversité de profils, mais surtout avec des gens qui, en général, amenaient une connaissance de l'endroit intime, personnelle et souvent militante. Et en vérité, il faut voir que souvent, on retrouvait des femmes qui étaient très engagées dans ces mouvements. Et ça s'est fait un peu par hasard, mais je trouve que ça correspond tout à fait à ce que dit Fatima Wassa, que je cite aussi largement dans le livre, sur l'engagement des maires et comment on s'engage en tant que maire par rapport à ces espaces que sont les quartiers populaires. Et c'est ce qu'elle a fait à Bagnolet et ailleurs avec le front de mer, Fatima Wassak. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est...
En politisant cette figure qui n'est pas que la maman qui s'occuperait bien ou mal des enfants, non, en en faisant aussi une position politique.
Et effectivement, c'était ce que je voulais dire là, c'est de se dire que on dépasse là aussi un stéréotype de la mère en quartier populaire qui est souvent alors soit on va dire encombrante ou en tout cas ou invisible ou bien elle ne s'occuperait pas de ses enfants ou quoi que ce soit. Et en fait, l'engagement sur le territoire de ces mères prouve tout le contraire. Et surtout, cette pour moi, je pense qu'au-delà de la figure de la mère, ce qui était important, c'était de montrer dans les quartiers populaires les personnes comme des acteurs, actrices de l'histoire. En fait, on a tendance toujours, avec cette façon de les renvoyer à la périphérie de à peu près tout, en fait, de la vie.
Y compris d'eux-mêmes, parce que de leur histoire aussi.
Et de leur propre histoire, etc. On ne leur donne pas une place qui est centrale, finalement, dans l'histoire de France. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, on a l'impression que c'est un territoire à part de la République, si on écoute les médias d'extrême droite. Mais en vérité, c'est un territoire central qui retrace quasiment toute l'histoire du pays depuis les années 1850-1860. Et c'est important de redonner cette centralité. Et moi, j'ai tout un dialogue.
Et d'autant que vous rappelez les pourcentages de la jeunesse et de l'enfance. Et donc, comme vous dites, ce n'est pas un quartier, c'est pas un endroit périphérique, parce que c'est un endroit qui concentre aussi le futur.
Oui, bien sûr.
J'en perds mon casque.
Le futur et aussi le passé. Et c'est important de relier en fait ces deux générations et de remettre de la transmission là-dedans. Et je pense pour moi, c'est important d'avoir peut-être ces personnages de mère parce qu'elles sont aussi un vecteur important de cette transmission politique et historique des quartiers populaires.
On va entendre un extrait de votre podcast « Penser le 9-3 » avec Maïmouna Diouf, parler d'endroits de soins.
Le médecin est obligé de s'adapter. S'il ne s'adapte pas, il ne peut pas. Mais ça, c'est un travail que chaque structure fait à partir. Nous, notre place, c'est de dire aux habitants, de leur rappeler tous les jours qu'ils ont un pouvoir. Auprès des institutions, auprès de l'hôpital, auprès des médecins. Le médecin, c'est son métier. Mais toi, tu connais ton corps, parfois, mieux que ce médecin qui te parle. Donc, tu peux lui dire ce qui ne va pas. Il comprend, il va comprendre. Dans le centre de santé, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, parce que je n'ai pas vérifié depuis un an et demi, à un moment donné, ils avaient même fait venir une interprète pour permettre vraiment que les choses comprennent mieux, que l'accompagnement puisse se faire. Donc, les médecins aujourd'hui sont obligés de s'adapter. Parce que de plus en plus, toutes ces personnes-là, quand même, se rendent compte qu'il s'agit de leur santé. Ce n'est pas la santé de l'autre. Le médecin peut arriver avec son grand truc, mais il ne peut pas faire tout le travail. Un travail est fait par soi-même, parce que c'est nous-mêmes qui sommes malades, et aussi par tout ce qui est environnement. Elle a dit, hein, il y a les orthophonistes, c'est un tout. Donc, avoir la possibilité de parler de ça, pour moi, je pense que c'est important. On a eu quelqu'un qui disait aussi, oh là 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 là, ces gens-là, ils sont juste fatigués, ils te disent, je ne vais pas bien. Comment une personne peut être fatiguée tous les jours? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qui s'exprime dans son corps, qui fait qu'elle n'a pas envie de se lever, qu'elle n'a pas envie de faire des choses. Et c'est là la difficulté du travail à Léa. Là, c'est vraiment nos limites. La difficulté est comment faire pour que l'équipe salariale se dise « on n'accueille pas des personnes modèles ».
Devant ce centre de santé se crée une petite dissonance naïve dans ma tête. Quand je pense désert médical, je pense au Cantal. Je pense 45 minutes de voiture pour aller chez le médecin. Je pense aller voir un spécialiste à 2 heures de route à Clermont-Ferron, parce qu'il n'y en a plus dans le département. J'ai du mal à faire entrer en adéquation les chiffres que je connais sur la santé en Seine-Saint-Denis et le nombre d'établissements de santé autour de moi. Et pourtant, la question des déserts médicaux urbains se déploie ici avec une réalité dramatique, ce qui n'enlève rien à la situation désastreuse que connaissent de nombreuses campagnes. Sur un petit tableau, à côté du centre municipal de santé Léo Lagrange, apparaissent les noms et les métiers de celles et ceux qui y travaillent. Médecin généraliste, pédiatre, conseillère conjugale et familiale, diététicienne, kiné, infirmière. Le local se situe au rez-de-chaussée d'un bâtiment un peu vieillot de 7 étages, anthracite et vert clair. Un petit escalier ainsi qu'un plan incliné mènent à la porte. Il n'a rien d'extraordinaire. Il témoigne pourtant de toute une histoire qui a permis à la Seine-Saint-Denis de compenser les carences de l'État en matière de services publics de santé.
Un extrait de 9-3, une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis, Antoine Tricot, parce que je voulais qu'on entende aussi la langue dans laquelle vous écrivez. Et tout à l'heure, Ramsès Kiffi disait, c'est par la littérature qu'on emmène vers la complexité, mais aussi potentiellement vers la tendresse. Et il y a quelque chose dans la façon dont vous écrivez aussi ce livre-là, Antoine Tricot, qui raconte, je crois, une éthique de l'écriture, de l'écoute et du journalisme. Donc un des aspects qui m'a semblé en effet le plus original et peut-être le moins entendu, puisqu'on parle aujourd'hui des choses moins dites, moins entendues, c'est tout le rapport aux soins, tout ce que vous racontez de plusieurs manières de faire soin dans ce territoire. Là, on a entendu la voix de
Maïmouna
Diouf, qui parle de Léa. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce que c'est que cet endroit ?
En fait, Maïmouna Diouf a été pendant 20 ans directrice d'une association qui s'appelle Lieu Écoute Accueil, qui est une association de médiation santé et très proche de ce qu'on pourrait appeler la santé communautaire. Et en fait, elle est centrale pour moi, cette histoire du soin en Seine-Saint-Denis, parce que déjà, elle me permet de faire le lien avec le reste du pays. En fait, ce lien entre moi, le Cantal, ce que je ressens en tant qu'habitant du Cantal, et ce qui existe en Seine-Saint-Denis, pour bien dire, la Seine-Saint-Denis, en fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, c'est quelque chose qui touche à l'universel, en particulier via ce sujet sujet du soin qui nous concerne aussi tous. Et Maïmouna, elle a exactement ce caractère d'actrice du territoire, d'actrice de l'histoire qui est très important parce que en 20 ans, elle voit passer énormément de personnes avec des situations très différentes, mais elle voit des permanences qui sont le racisme potentiellement et qui empêchent l'accès aux soins. Et en fait, quand on parle d'essai médical, c'est ce que je dis, quand on dit les chiffres, souvent on ne comprend pas ce que ça veut dire, en fait, concrètement. On se dit, y a quand même quelques hôpitaux en Seine-Saint-Denis, c'est cool. Mais en fait, on ne se rend pas compte quelle est la difficulté pour accéder...
Des hôpitaux, par ailleurs, très performants. Ça aussi, vous montrez que ça va contre certaines images avec des plateaux techniques et évidemment des soignants très, très, très performants.
Tout à fait. Mais avec, effectivement, potentiellement plein d'obstacles aux personnes pour aller jusque-là. Et le racisme dont elle parle est l'un des plus importants. Et pour moi, ce qui a été très important dans ce livre, c'est peut-être vous parler de tendresse, je parle de sensibilité. C'est en tout cas de toujours remettre la relation, ce que fait Ramsès Kefi très bien dans ses deux livres aussi, la relation entre les personnes, la relation qui nous lie finalement à un territoire, à une problématique et en fait à tous les gens qui les habitent. Et j'essaie, en tout cas, de mon point de vue, de ma perspective, moi venant du Cantal, parlant de la Seine-Saint-Denis, d'essayer de recréer ce lien qu'on a rompu au fur et à mesure en renvoyant ces espaces que sont les quartiers populaires à la périphérie de notre regard, au mieux, dans le refoulé de nos inconscients et de nos mauvaises consciences, au pire. Et en fait, en reprenant ce petit fil, je recrée une centralité et je me dis, la Seine-Saint-Denis peut se qualifier par rapport à elle-même, par exemple, et plus par rapport à Paris, pour être ce vrai centre qu'elle est.
D'ailleurs, en fermant votre livre, je me suis dit, mais on ne peut plus dire quartier périphérique, même ce mot-là, du coup, il est à questionner parce qu'il y a quelque chose qui se déplace dans comment on pense des centres. Et il me semble que c'est une des hypothèses, on a commencé en se demandant comment faire, une des hypothèses sur lesquelles vous ouvrez, mais malheureusement, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Si, en une seconde.
Oui, je dois tout à Edouard Glissant sur cette question.
Ah, exactement, et vous le citez d'ailleurs. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ah oui, la radio, ça va vite. À cette heure-ci, on vous retrouve Mathilde Wagman. Waouh, bonjour Mathilde.
Mais bonjour Marie.
Je vais ralentir tranquillement pour dire que vous nous parlez chaque semaine de littérature jeunesse. Et aujourd'hui, un truc que j'attends depuis si longtemps. Vous poursuivez aujourd'hui une série sur les animaux dans la littérature.
Absolument Marie, parce qu'un grand nombre d'ouvrages s'emparent de figures animalières sous forme anthropomorphisée. J'aime à méditer en effet sur la présence de certains d'entre eux dans les livres pour enfants. Ainsi a-t-on déjà parlé ici du lapin, du chat ou encore de l'âne. L'animal dont je vous parle aujourd'hui n'est pas une telle star, toutefois on le croise moins souvent, mais ses apparitions lui confèrent une saveur toute particulière. Créature déconsidérée, alors même qu'il joue un rôle essentiel à l'équilibre des sols, il est souvent vu comme une vermine, ce qu'il rattache à cette catégorie dont Tommy Ungerer a fait les héros de ses premiers albums, le rat, la pieuvre, le serpent. Bref, les rejetés, les outcasts, les misfits, les rebuts. S'il est l'objet d'un tel mépris, c'est sans doute parce qu'il vit sous terre et renvoie donc à l'imaginaire de la mort, ou tout simplement parce qu'il est gluant, donc dégoûtant aux yeux de beaucoup. Vous l'aurez deviné, je vous parle aujourd'hui du ver de terre, et ce grâce à deux personnages que j'adore.
Et vous faites le lien avec toute la pensée écologique aussi présente dans le livre d'Antoine Tricot. Le moment est venu de nous révéler l'identité de ces deux lombriques.
Le premier s'appelle Jean-Claude. C'est un personnage récurrent de la série d'albums mettant en scène le jeune hamster Billy, paru à l'École des loisirs depuis 2010, et signé Katharina Valks. Le second s'appelle Christophe et fait partie du groupe d'amis que met en scène Anouk Ricard dans les scénettes de bande dessinée regroupées sous le titre Anna et Froga. Paru pour la première fois en 2004, elles ont été rassemblées dans un volume intégral récemment réédité par les éditions Sarbacane. Le nombre de points communs entre Jean-Claude et Christophe est grand. Outre le choix de ses délicieux prénoms, ils partagent une allure similaire, deux fins boudins d'un rose pimpant surmontés d'un trait pour la bouche, de deux yeux aux pupilles immenses qui leur donnent un air sympathique ou parfois un peu niais. La facilité avec laquelle le ver de terre se présente sur le terrain graphique permet un dessin minimaliste qui n'est d'ailleurs pas pour rien. Dans son attrait, les deux dessinatrices mettent à profit la souplesse de l'animal qu'elles tordent dans tous sens. Elles jouent aussi de ce que c'est sans doute l'un des êtres qui se prête le moins à l'anthropomorphisation, puisqu'il n'a ni mains, ni bras, ni jambes. Elles en font un ressort burlesque.
Ça, c'est pour les points communs, Mathilde. Peut-être faut-il aussi nous les présenter chacun dans leur singularité.
Oui, d'autant que l'univers des deux autrices est très différent. La première histoire qui met en scène Jean-Claude s'appelle Olé Pat, le père de Billy. Gangster de grande réputation, se demande si son fils pourra faire un bon bandit. Il sort de ses tiroirs un vieux revolver, un masque et un chapeau à la Zorro et l'incite à s'exercer. Billy se met en chemin et tombe sur Jean-Claude. Il s'approche, pointe son arme, lance un « haut les pattes » le plus intimidant possible, auquel Jean-Claude répond simplement d'un air un peu désolé « mais je n'ai pas de pattes ». Et c'est ainsi que commence leur longue amitié. Sur les 8 albums que compte la série, mon préféré est sans conteste « La fête de Billy », soit le récit de la soirée déguisée organisée par le jeune hamster pour son anniversaire. Jean-Claude s'y présente peint en bleu, déguisé en rivière, et accompagné de Didier, son petit frère, qui l'a quant à lui peint en marron pour le déguiser en crotte. Paroxysme de ce caractère rebutant de l'animal dont je parlais, et tour de force gentiment subversif par lequel on se prend à fondre de tendresse pour un charmant petit étron. Anna et Froga met quant à lui en scène la bande d'amis qui entoure la petite humaine qu'est Anna, Froga la grenouille, Bubu le chien, René le chat et Christophe donc, ceux dans différentes situations de leur vie, banales en apparence, dans un univers teinté d'un comique de l'absurde proche de celui des Peanuts de Schultz, avec une dynamique tout à fait singulière cependant. Christophe apparaît dans la toute première de ses histoires, le chewing. Il a perdu son cousin, le petit Samy. Anna pense un temps l'avoir avalé, le prenant pour un chewing-gum par erreur, avant de réaliser qu'elle a en fait ingéré sa chaussette qui pue. Dégoûtant, vous disais-je. Dans un autre épisode, Christophe invite ses amis en les invitant au récital, à venir voir le récital de piano qu'il donne le soir même. Sans vouloir te vexer, comment tu fais pour jouer du piano alors même que tu n'as pas de main, observe René. C'est simple, on est 10 à jouer ensemble, répond le ver de terre, et nous le découvrons plus loin, aux côtés de 9 de ses congénères, face à un piano à queue, dont ils frappent les touches avec le bas du boudin qui leur fait office de corps. Si Anna et Froga m'émerveillent à ce point, c'est qu'Anouk Ricard y met aussi en scène des héros peu aimables par bien des points, radins, autoritaires, menteurs, vaniteux, gourmands, jaloux, paresseux. Il est trop rare de lire des histoires pour enfants qui osent des personnages ainsi taillés et n'aient pas peur de faire rire les bambins de cette misérable mais si risible humaine condition. Le ver de terre, être rampant, être du sous-sol et la créature rêvée pour développer cette faculté qui nous permet d'y survivre, l'humour.
Bah oui, vous voulez ajouter un petit mot ?
Un dernier petit mot pour mentionner simplement qu'Anouk Ricard a annoncé il y a 6 semaines déjà que, pourtant lauréate du Grand Prix d'Angoulême l'an dernier, elle prenait la décision réfléchie de ne pas participer à l'édition 2026 du festival en soutien aux voix qui demandent un changement nécessaire dans l'organisation de l'événement. Je ne peux ici résumer les tenants et aboutissants du mouvement qui agite la profession depuis plusieurs semaines à ce sujet et les raisons pour lesquelles le festival n'aura probablement pas lieu cette année. Je vous renvoie vers la série d'articles de Lucie Servin dans le journal L'Humanité et au résumé qu'en a fait Antoine Guillot dans le Point Culture de Marie Sorbier sur cette antenne. Anouk Ricard vient par ailleurs de publier un nouvel album qui s'appelle Fabienne, plutôt destiné aux adultes. Quant à lui, il a paru aux éditions Exemplaires, maison qui œuvre pour une meilleure rémunération des auteurices. Ses ouvrages se trouvent dans toutes les bonnes librairies, bibliothèques et aussi bien sûr au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en scène Saint-Denis à Montreuil, qui ouvre ses portes demain. On aura largement l'occasion d'en reparler ici même.
Lecture jeunesse à retrouver sur franceculture.fr. Merci Mathilde Wagman. À cette heure-ci dans le Book Club, on joue à un jeu. Ça consiste à chercher et trouver de la musique dans les textes. On en a trouvé dans votre roman Ramsès Kéfi. On se quitte donc avec un extrait de 4 jours sans ma mère. Jahid était un homme pressé. Toxico, c'est un contre-la-montre. Il marchait vite, torse nu, un casque de Walkman sur les oreilles et avait toujours un sac, une ceinture, un parfum, une télé ou un fer à repasser à te vendre. Jahid n'était pas un toxico avec la peau bleue et la bave blanche au coin des lèvres. Non, lui, il ressemblait à une gravure égyptienne avec des cicatrices plein le visage et des muscles ciselés comme de la roche de Calanque. Jahid courait derrière sa dose de rabla mais prenait toujours le temps de taper la bise avec ses pommettes luisantes d'aftershave. Ce jour-là, Jahid s'est donc arrêté sur la place. Il a craché sur le rap que les jeunes écoutaient, a chantonné Africa de Toto et a même filé son casque de Walkman pour qu'ils écoutent de la vraie musique. Personne sur place ne contredisait Jahid, parce qu'on savait que pour lui, c'était son escale avant de repartir vers un cambriolage, une arrachée de chaîne ou une piqûre dans un couloir qui ferme mal. «
Ah là là, je coupe la parole à Toto pour dire que je me suis trompée. La page musicale, on ne l'a pas trouvée dans votre roman Ramsès Kéfi, mais dans la nouvelle d'Adrien Bels, qui fait partie du retour du roi Djibril, les contes de la cité que vous co-dirigez avec Rachid Lahirech. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous.
4 jours sans ma mère apparu aux éditions Philippe Ray. 9-3, une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis apparu aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les deux. Au son, c'était Grégory Wallon, à la réalisation Daphné Leblond. Merci à toute l'équipe du Book Club.